de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, ils sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. C'est une émission spéciale ce soir dans les locaux de notre radio rue d'Assali, puisque nous allons parler de théâtre. Alors vous le savez, j'ai l'habitude souvent de faire des entorses à notre programme de poésie, soit pour des romans, puisque les poètes publient souvent des romans, soit évidemment pour des œuvres théâtrales. Mais aujourd'hui, c'est une émission tout à fait spéciale, parce qu'il s'agit d'abord d'une émission qui touche en premier lieu le milieu du théâtre et le milieu toulousain, puisque cette émission est liée à un événement qui va avoir lieu à Toulouse samedi. C'est l'inauguration d'un jardin, le jardin qui jouxte le théâtre Jules Julien de Toulouse. Ce jardin va être appelé le jardin Monique Demey et Luc Montec. Voilà. Alors, pour parler de cet événement, nous avons trois intervenants. Le premier, ce sera dans un instant Jean-Claude Ettori, poète dont je vous parlerai dans peu de temps. Et puis, nous avons Monique Marty. Monique, bonsoir.
Bonsoir.
Monique Marty, qui a animé des ateliers de théâtre à Jules Julien pendant des décennies.
Oui, on peut dire ça.
Et, Josette Echène, donc, qui a fait partie de ces ateliers, les deux étant évidemment comédiennes. Alors, elles vont nous parler de cet événement, de ce que représentent Luc Montec et Monique Demey dans le milieu du théâtre et du théâtre, ce qu'on appelle le théâtre réel. Mais auparavant, je vais devoir sacrifier à quelques signalements donc de poésie. Alors je vais commencer par l'interlocuteur que nous allons avoir tout à l'heure. Il s'agit de Jean-Claude Ettori. Jean-Claude Ettori, qui fait paraître aux éditions Sabine, L'homme qui aimait, Donc, c'est un livre qui vous coûtera 12 euros. Voici ce qu'il est indiqué en quatrième page de couverture. Souvenons-nous de l'accueil que reçut Huburoy, ça va vous parler, d'Alfred Jarry en 1896. Hein. On n'imagine pas que ce soit si ancien quand on regarde, quand on lit cette pièce. Stupeur, consternation, incompréhension et puis enfin révélation du talent et du génie de l'auteur. Souvenons-nous du Cornéadé de Max Jacob, paru en 1916, premier recueil de poèmes en prose, qui s'achève par le douloureux appel final au fantôme inspirateur du passé. Ce texte étonnant de Jean-Claude Ettori, nous dit l'éditeur, a deux parrains, le génie d'Alfred Jarry et la poésie mélancolique de Max Jacob. En faisant appel à ces fantômes inspirateurs du passé, le poète semble face à un double qui déroute, étonne et qui finit par intriguer. Mais que cache ce rébus que nous délivre Jean-Claude Ettori? Avouerait-il une faute? Est-ce l'ébauche d'un pardon? À moins, comme dans les romans de Dostoïevski, que le pardon ne précède la faute. Voilà. Donc je crois que c'est une très belle introduction de ce recueil de poèmes. Je vais vous lire très rapidement un extrait. Je vais peut-être prendre le premier, tout simplement, pour vous donner une idée du ton. Mais je reviendrai lors d'une prochaine émission, je reviendrai sur ce recueil et sur, d'une façon plus générale, l'œuvre de Jean-Claude Ettori, que nous allons, au cours de cette émission, entendre également dans ses poèmes chantés. Ça sentait la crème rasée, la pièce était fraîche, le lavabo était sans trace, la serviette bien pliée. Sur la glace du lavabo, il remarqua une rayure. Derrière la glace, il y avait quelque chose. Avec son couteau, il souleva la glace. Une enveloppe était collée sur le mur. À l'intérieur de l'enveloppe, il trouva une photo. Jean-Claude Ettori, L'homme qui aimait, aux éditions Sabine, 12 euros. Mais nous en reparlerons. Il y avait dimanche dernier un débat sur la poésie féminine. Et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui, de signaler la parution de Nouveau Délit, revue de poésie vive, le numéro 61, qui est dirigé par une femme poète, qui est donc Cathy Garcia Canelès. Très rapidement, voici ce qu'elle dit. Quand j'ai commencé la revue, dans les premiers numéros, j'étais systématiquement au sommaire. C'était une façon de connaître mon travail en même temps que celui des autres auteurs que j'accueillais. Voilà. Et maintenant qu'elle est au 61e numéro, eh bien entendu, elle n'est plus au sommaire. Mais ce sont ses amis poètes qui sont là. Et donc il y a là d'abord un travail considérable de Cathy Garcia qui fait ça. Elle habite à Létou, qui est à côté de Saint-Cyr-la-Popie. Et je suis allé cet été, je pensais pouvoir la voir, là, mais en définitive, c'est compliqué. Et j'ai été surpris, je suis allé à Saint-Cyr-la-Popie pour voir l'exposition de Gallimard sur les rapports entre poètes et éditeurs, qui sont toujours des rapports quand même très intéressants. Et dans cette exposition, alors qu'il y avait des milliers de personnes dans Saint-Cyr-la-Popie, eh bien, avec ma femme, nous étions, et Aurélie, ma fille, nous étions les seuls visiteurs. Voilà. Et alors, quand j'ai dit ça à Cathy Garcia, elle m'a dit, ben oui, bien sûr, c'est certainement pas là que moi, je peux faire passer ma poésie, ni même toutes mes œuvres plastiques. Alors, nous reviendrons sur ce numéro, Nouveau Délit, revue de poésie vive, le numéro 61. Le numéro, je crois, coûte 6 euros et l'abonnement est de... Alors, l'abonnement... et de 28 euros pour 4 numéros. Voilà. Et vous avez sur notre site les-poètes.fr, vous avez toutes les références et le sommaire de ce numéro. Voilà. Et maintenant, nous écoutons Jean-Claude Ettori. qui va nous parler de la personnalité de Luc Montèche.
Oui.
Ça y est, voilà, on t'écoute Jean-Claude.
On vous écoute. Oui, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bon, ma rencontre avec Luc remonte au XXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça. Nous nous sommes retrouvés, je me suis retrouvé programmé au Centre culturel du Mirail avec Alain Fourcade et mon compositeur Daniel Henck. C'est comme ça, au Centre culturel du Mirail. C'est là que j'ai connu Luc dans la fin des années 70, début des années 80. Voilà, ça a été une première rencontre importante. Et j'avais beaucoup apprécié bien sûr le personnage et l'action qu'il menait au niveau de la culture à Toulouse. Et puis on s'est retrouvé bien sûr pas très longtemps après rue Croix-Baragnon, où il avait mis en scène les textes d'un grand éditeur poète qui s'appelle Hugues Malbert, un de nos amis d'ailleurs. Et on avait investi tous les étages de la rue Croix-Baragnon. Ça a été une expérience assez extraordinaire. Et je ne pense pas qu'actuellement on puisse refaire une chose pareille. Luc avait été encore fait une mise en scène, encore assez époustouflante. Ça s'appelait Mise en pièce de Hugues Malbert, mise en scène de Luc Montèche. Puis le temps a passé, j'ai beaucoup chanté avec mes musiciens au théâtre Julien. Et une anecdote assez extraordinaire, en 2001, il me téléphone, il me laisse un message sur mon répondeur, il me dit « il faut absolument que je te voie d'une voix grave, c'est très important, passe à la maison voir l'apéritif. » Alors bon, je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je me dis dans ma tête, bon, le soir donc je me rends à son domicile, et il y avait bien sûr Monique Demey qui était là, donc on se dit « bonsoir », il me dit « bon écoute, assieds-toi », il me dit « avec Monique, nous avons quelque chose à te dire ». Il disait ça d'une voix, il était très grave, je dis « qu'est-ce qu'il va m'annoncer ?» Il m'a dit « tu sais Jean-Claude, que depuis très longtemps, tu me parles de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Eh bien, ça y est, nous la montons avec Monique. » Alors là, le temps s'est arrêté pour moi. J'ai été réveillé par un bouchon de champagne, parce que Monique aimait beaucoup le champagne, donc on a fêté ça au champagne. Et bien sûr, fin 2001, nous avons joué la prose du Transsibérien au Théâtre Jules-Julien. Nous avons joué pendant 2 années, avec bien sûr une mise en scène. Une scénographie de Luc Montèche, costume d'Elisabeth Massat, il y avait la musique de Christian Lazare, et j'ai joué ça avec Sylvie Antonini, Jacques Schiltz, Christian Evenot et Jean-Paul Jourda. Voilà, c'était des grands moments, deux grands moments de culture autour de ce grand poète Blaise Cendrars que nous avons joué en 2001 et en 2002. Et puis, la dernière aventure aussi extraordinaire que j'ai eue avec Luc, et bien sûr Monique, ça a été en 2005, lorsque nous avons organisé avec la ville de Toulouse, bien sûr, la semaine Toulouse-Québec, et le grand Gaston Bellemare, qui avait créé le Festival international de la poésie à Québec, était venu avec les 5 grands poètes québécois, et accompagné, bien sûr, par les éditions Autre-Temps de Gérard Blua, notre éditeur poète ami. Et pendant toute une semaine, nous avons investi la ville de Toulouse, l'Ombre Blanche, Castella, le musée des Augustins, la médiathèque et bien sûr le théâtre Jules-Julien, où nous avons vécu à l'air, l'heure de la poésie pendant une semaine. Et ça a été encore une aventure extraordinaire que j'ai eu le bonheur de vivre avec Luc et bien sûr Monique. Voilà, donc c'était que des grands moments, des grands souvenirs, il y en a d'autres, je serai peut-être un peu trop long, mais ceux-là sont importants, et je tenais à le signaler, et en donner lecture un petit peu à tous vos auditrices et à tous vos auditeurs, voilà.
Merci Jean-Claude. Donc à samedi, nous allons maintenant écouter ici nos témoins de cette période homérique, donc avec Monique Morty, et Josette Echène.
Oui, merci Jean-Claude. À samedi, hein, on compte sur toi, beaucoup. Alors c'est marrant parce que sur son dernier ouvrage, il parle du Père Ubu.
Oui.
Et le Père Ubu est un spectacle qui a été monté par le Théâtre Réel. Il a été monté en 1991 avec Jean-Claude Bastos, avec tout un tas de musiciens, avec Hervé Sadio, avec une grande équipe, une très très grande équipe. Comme Luc avait l'habitude de le faire dans ses spectacles, il y avait toujours énormément de monde, parce qu'il prenait non seulement les gens de la compagnie du Théâtre Réel, mais aussi les gens qui participaient aux ateliers animés par les acteurs de la compagnie. Et du coup, c'était de grandes fêtes, d'accord, tous ces spectacles-là.
Alors, on va parler quand même de qui était Luc Montec, pour que nos auditeurs le sachent. Alors, Josette.
Moi, j'ai rencontré Luc et puis je ne l'ai jamais quitté depuis 1971-72. C'était quelqu'un, c'était un grand séducteur parce que il aimait les gens et ça se sentait immédiatement. Il aimait aussi les provoquer, il aimait savoir qui étaient les gens qu'il avait en face. Et puis quand j'ai commencé à travailler le théâtre avec lui, on s'échauffait tout le temps avant de commencer, comme un écrivain s'échauffe aussi, comme un peintre peut s'échauffer, comme tout artiste le fait, par un super match de basket. Et ça, je peux vous dire qu'on était chaud après. Et donc le corps, je l'ai compris très rapidement, était le moteur réel, et puis le langage qu'il avait choisi, puisque il m'est arrivé, parce que je chantais aussi, de propulser les acteurs et dans leur corps par la voix chantée, pas du tout parlée, mais par la voix chantée qu'il me demandait d'utiliser. Et c'était assez impressionnant parce que je me demandais comment ma voix pouvait faire bouger ainsi le corps des acteurs. Voilà, donc Luc, c'était un homme exceptionnel, je pense, que je n'ai pas toujours compris parce qu'il avait une philosophie particulière qui était très forte, que je comprenais quand il me le disait. Mais après, il fallait jouer avec lui, il fallait lui faire confiance. Et puis il y avait Monique aussi, donc on parlait beaucoup. Et puis la poésie était aussi au rendez-vous souvent.
Ce qui était formidable avec Luc, surtout, c'est que quand on était lancé sur un projet, il nous faisait confiance jusqu'au bout. C'est-à-dire, il n'intervenait jamais pour recadrer les choses, pour nous dire, là, tu sais, tu pourrais plutôt faire comme ça. Ou alors, s'il le faisait, c'était avec énormément de sympathie, d'empathie. Et ça, c'était assez formidable.
Alors, il a été directeur du théâtre Jules Julien, donc de 1982
2011. Mais entre-temps, il avait arrêté, il a été en maladie à partir de 2009-10 à peu près.
D'accord. Ouais.
Oui, voilà. Et ils avaient fondé tous les deux, Monique et Luc, le Théâtre Réel en 72, en 1972. Dans un collège à côté de Pamiers.
Le collège Baille,
où Monique était enseignante de français et Luc était surveillant. Et ils ont travaillé avec des jeunes. Le théâtre réel, il est né avec des jeunes.
Il était capable de nous faire monter sur les murs quand même.
Oui.
Si Stéphane Reynaud pouvait nous entendre, il en serait le véritable témoin.
Ouais. Ouais. Alors, la philosophie du théâtre réel, c'était quoi?
Alors, je vais vous lire un petit texte.
Oui, très bien.
Hein ? Le théâtre réel, c'est d'abord adressé à des enfants par un groupe d'enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que dit le théâtre réel, l'enfant le dit tant qu'il est enfant. Lorsque l'enfant joue, il participe tout entier à son jeu. Il est indien, il ne représente pas l'indien. Son imaginaire coïncide avec la réalité. Son acte est vécu réellement. Ses mots, son histoire sont vrais. L'enfant est capable d'être nouveau, il découvre, tandis que l'adulte le plus souvent répète. L'enfant invente son jeu et il crée au moment l'histoire qu'il est en train de vivre. L'enfant s'adresse toujours à autrui, il raconte, il invente, il agit pour quelqu'un. C'est ce qui le rend tellement plus présent que l'adulte. Même si cet autre est en lui-même, il ne triche pas. Enfin, l'enfant, tout en étant dépendant de certains adultes modèles, les parents, les professeurs, l'enfant est encore libre parce qu'il évolue. Et c'est un texte de Luc Montec.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaillait énormément les improvisations. Et lorsqu'un spectacle était monté, en tout cas au tout départ, il était monté à partir des improvisations qu'il avait repérées et dont il faisait finalement la trame d'un spectacle.
Et il y a deux spectacles particuliers qui sont montés à partir des improvisations des acteurs du théâtre réel, plus d'autres. C'est « Je vous aime ».« Je vous aime » qui a été créé en 1985 d'un auteur qui s'appelle Tadeusz Hamzak. Alors c'est une grosse histoire, ce Tadeusz Hamzak. Et la suite de « Je vous aime », ça a été « Je vous hais » en 1993. Alors Tadeusz Andzak, c'est un auteur qui est de père polonais et de mère française. Alors c'est le pédigré de cet auteur-là sera affiché dans le théâtre. Bon, c'est un petit peu long, je ne vous le lis pas, c'est un petit peu long, mais ça sera affiché dans le théâtre le 20.
Sur la porte du foyer,
sur la porte du foyer, oui.
Alors samedi 20 octobre à 17h30, c'est donc devant le théâtre Julien, c'est là le lieu de rendez-vous. Mais il y a une affiche sur cet événement, et le titre de l'affiche c'est « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rigoler ?»
Alors ça, c'est un mot de Luc, qui après chaque représentation, ben, comme tous les comédiens, on se retrouve, on a fait la dernière,
c'est le vide.
On est un peu démunis. On est un peu démunis, on est un peu triste parce que c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et lui nous disait, bon, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rigoler? Il avait un petit défaut de langue. Il nous disait, qu'est-ce qu'on fait pour rigoler? Et c'était parti, et on repartait sur un autre projet.
Et Monique était aussi quelqu'un qui accompagnait Luc, mais qui aussi le pilotait, parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et Monique était toujours là, au moment des discussions un peu ardues, pour voir qui avait tort, qui avait raison, qui vous aidait à être ensemble aussi finalement, parce que et puis Luc l'écoutait énormément,
hein, tout à fait,
et
puis,
tous les deux s'écoutaient beaucoup.
Oui, elle était toujours là, quoi, ensemble, quoi. Même si les idées elles venaient de Luc, parce qu'il était débordant d'idées, oui, Luc, hein, ça partait dans tous les sens. Il nous disait bon, ça je peux pas, j'ai des tiroirs à la maison. J'ai des tiroirs, et dans ces tiroirs, je fourre mes idées dans les tiroirs. Et après, de temps en temps, je les ouvre. Mais c'est plutôt Monique qui les ouvre, d'ailleurs. Et il sortait les idées des tiroirs pour les prochains spectacles.
Alors, le maire fera donc...
La mairie, sur ce projet, a été assez, très facilitatrice et très bienveillante. Le samedi 20, donc... nous avons rendez-vous à 17h30 dans le jardin devant le théâtre Jules Julien. Et à partir de 17h45, le maire va dévoiler la plaque et faire un discours d'inauguration. Suite à ça, il laisse libre cours à ces immersions dans l'œuvre de Luc et Monique. Et là, on va assister à un certain nombre de performances artistiques qui sont faites par des professionnels de théâtre hein, ou par des amateurs qui ont fait partie des ateliers. Souvent, ces professionnels de théâtre sont passés par les ateliers du théâtre réel et ensuite ont fait le pas vers la professionnalisation. Et puis, souvent, ils sont restés amateurs. Et ce sont tous ces gens-là qui ont répondu présent et qui seront là, ils sont une cinquantaine.
Il y a même des plasticiens hein, qui sont devenus plasticiens tout en changeant de métier. Voilà, et tout en ayant commencé au théâtre.
Oui. Et Zizi chantera, parce que Zizi est chanteuse.
Voilà, je peux chanter aussi.
C'est normal avec compagnon musicien.
Oui, aussi.
Alors, dans tous ces intervenants, d'abord, le nombre est impressionnant. Une idée d'ailleurs de la personnalité... qui étaient Monique Demey et Luc Montec. Hein.
Et il y en a certains, certains intervenants, certaines personnes qui ne peuvent pas être là. Qui ne peuvent pas être là parce que Tonton Salut, par exemple, il est en tournée et puis il regrette de ne pas être là. Stéphane Facot aussi. Il y a plein de gens qui regrettent. Ouais. Donc ces gens-là, on leur a dit, écoutez, soyez quand même avec nous, envoyez-nous une vidéo et ces vidéos, elles tourneront en boucle pendant la soirée.
Très bien.
Et Stéphane Facot, qui avait joué Rimbaud sous l'égide de Monique, qui était un magnifique Rimbaud, va justement ce jour-là être à Biarritz, où il va lire Rimbaud. Donc il m'a envoyé ce petit message absolument adorable. Quoi.
Alors il y a...
Il y en a d'autres qui se déplacent, c'est-à-dire par exemple Manu Gallure. Manu Gallure, il est à Reims.
Ah oui.
Il va descendre de Reims samedi pour être là samedi soir. Et après, il remontera à Reims.
Manu Gallure, qui avait 18 ans pour le premier spectacle qu'il a joué à Jacques-Julien et qui en a maintenant, je ne sais pas, 20, passé
un peu plus
25,
je ne sais pas. On lui demandera.
Oui, on lui demandera.
Alors, c'est bien quand même que la ville de Toulouse, c'est une reconnaissance absolue. hein, de ce qu'a été cet homme de théâtre, cette femme de théâtre, hein, ce couple-là de Mai et Montaigne. Hein. Ça, c'est bien quand même, je crois que... On entre là, bon, ça fait drôle parce que c'est rentré quand même dans l'histoire du théâtre, hein,
du théâtre Jules Julien,
Jules Julien et donc du théâtre de Toulouse quand même. Hein,
de Toulouse, oui. Voilà. C'était une des premières salles, déjà municipales, du théâtre qui a été construit par la mairie.
Oui.
Et sur le fronton du théâtre, il y a encore salle des fêtes.
Oui. Alors moi, j'ai le hasard fait que j'étais à l'école maternelle Jules Julien parce que ma tante était directrice de l'école et comme mes parents à l'époque avaient une maison trop petite, j'étais donc en pension chez ma tante. et le dimanche, j'allais m'amuser dans ce hall.
Dans le hall. Et alors c'est assez rigolo parce que
début des années 50. Hein.
Pendant des années, on a eu des ateliers de théâtre pour adultes qui se sont déroulés dans la grande salle de l'école maternelle.
Et
on a toujours eu des rapports avec la maternelle, le primaire et le collège.
Ça c'est exceptionnel quand même.
Le directeur de l'école primaire, me semble-t-il, avait fait partie d'un spectacle sur le rugby.
Alors, dans les intervenants, il y a beaucoup de monde, mais je reconnais par exemple Philippe Berthaud.
Tout à fait.
Voilà, Philippe.
Tout à fait.
Nous saluons, on aurait pu
qui
aussi.
Qui vient aussi, qui n'habite pas Toulouse.
Oui, et voilà, il n'habite plus Toulouse maintenant.
Il vient exprès avec.
Il est resté en Occitanie quand même, mais enfin, il est allé très loin. Hein.
Ouais. Il nous manque.
Du quartier Saint-Cyprien, ça fait pas mal. Bon, il sera là samedi, donc Philippe Berthaud. Il y a d'autres Montec. Je vois Christine Montec.
Alors, Christine, c'est la belle-sœur de Luc, c'est la femme du frère de Luc.
Oui.
Il y a Yvan Montec et son fils, Joël.
La fille. Oui.
Et il y a Sylvie.
Sylvie qui sera Sylvie spectateur.
Pardon, mais vous ne voyez pas du tout, ça c'est pas Montec, mais c'est Sylvie, c'est la nièce de Monique.
D'accord.
Qui descend de Chartres.
D'accord. Un spectateur.
D'accord.
Et puis... Après, il y a des gens qui sont inconnus, mais par exemple, c'est assez rigolo. Jean-Pierre Olive, qui a été directeur de l'hôpital pour enfants, je crois qu'il est retraité là maintenant. Bon, c'est un pont au niveau de la médecine.
D'accord. Oui, qui est là.
Ami de Luc II, d'enfance de Luc,
Et
qui a joué dans les spectacles du réel. Étienne Snook, directeur du CMS, pareil, qui était dans les ateliers du réel. Bon, il y a tous ces gens-là.
Patrick Tépé, qui est médecin, qui était très ami, et qui a joué également.
Tout à fait,
qui en parlait, il y avait beaucoup de fougue, quand il parlait de ça.
Et tous les autres sont aussi importants. Hein.
Oui.
Tous amoureux de la poésie et du théâtre.
Oui, voilà, poésie et théâtre. Est-ce que ce type de théâtre existe toujours? Parce que c'est ça qui est quand même aussi...
On aimerait bien. On aimerait bien. Là, actuellement, le théâtre Jules Julien a été pris, enfin, c'est le conservatoire de théâtre qui s'est installé là. Donc, il y a quand même quelque part, il y a une continuité des choses. La seule chose qu'on regrette peut-être un petit peu, c'est que c'est cette ouverture vers la ville, vers le milieu scolaire, vers les collèges, les écoles, les lycées, qui commence à se faire au conservatoire. Parce que il y a cette... Pamiers, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a quand même, il y a une patte qui est restée, il y a quelque chose qui est resté dans ce théâtre. Bon, et ça c'est bien.
Et le théâtre de quartier aussi, est-ce que c'est...
Plus difficilement.
Plus difficile.
Plus difficilement, oui. Il n'y a plus d'ateliers adultes, par exemple.
Oui.
Il n'y a plus d'ateliers adultes, théâtre amateur. Le théâtre Jules Julien et le théâtre réel a beaucoup fait pour le théâtre amateur. Comment il s'appelle? Roland Murat, qui est l'ancien président du théâtre amateur de la FNCTA. Mais il en parle de façon magistrale. C'est très, très beau ce qu'il en dit. Je crois que c'est lui qui en parle le mieux.
Il sera là
samedi, il lira un texte, d'ailleurs.
Alors, si vous voulez bien, on va écouter Jean-Claude de Thury.
Oui.
On va écouter Jean-Claude de Thury dans un morceau qui s'appelle Fado.
C'est sûr.
avait le blues sur son bateau. Et c'est pour cela qu'il y a de Braga à Tavira, de Lisbonne à Porto, d'étranges voix de fado. Dans une vieille rue d'Alfama, je traîne mon blues dans mes pas. J'entends tout autour de moi la chanson d'Amalia. Dans ce très vieux bistrot, d'étranges voix de femme. Lave le blues de la mer jusqu'au bord des rizières. Et au bout de la terre, elles ont ces femmes fières, d'étranges voix de fado. J'aime les filles de Nazaré qui ont le blues de la criée dans leurs jupons serrés. Quand le soir est tombé, on entend s'élever d'étranges voix de fado. Sur son bateau.
Alors Monique, tu nous disais que fado, ça évoquait pour toi des souvenirs de Portugal, de Lisbonne.
Ah oui, parce que le frère de Luc, Alain Montec, a été attaché d'ambassade à Lisbonne. Et à Lisbonne, il y avait une communauté française très très importante et qui était friande de culture française. Et Alain nous a fait venir donc à Lisbonne et nous a permis de jouer deux spectacles sur deux années consécutives. En 81, on a joué un spectacle de comédie dell'arte au Théâtre National de Lisbonne, Dona Maria Segunda. Et l'année suivante, on a joué un spectacle sur le Sengoku, donc un spectacle avec consonance japonaise, au Théâtre São Luís de Lisbonne et à Setúbal. Et là, il y a une anecdote à Setúbal parce qu'on a joué dans un cloître. Et un lieu superbe, mais vraiment magnifique. Et alors, ce principe du théâtre japonais, c'est que dire, on était tous assis sur des coussins de façon hiératique, on ne devait pas bouger, le regard fixe devant. Et il y avait Jacques qui disait un texte en avant-scène. Et on avait sur la tête des chapeaux, costume japonais, enfin asiatique, et on avait des chapeaux qui étaient en fait une boîte de camembert enveloppé de tissu noir qui tenait sur le haut du front. Et au fur et à mesure que Jacques jouait, il ne pouvait pas bouger, et on voyait cette boîte qui descendait. Et à un moment, Luc a explosé de rire. Il était derrière, sans bouger, il explose de rire. Et tout le monde, on a tous pris un fou rire sur scène, mais le plus terrible, c'est que c'était génial, parce que le public aussi s'est mis à rire. Ça a duré 10 minutes, On n'a pas pu continuer à jouer tout le cloître riait, quoi.
Ça, c'est public francophone.
Public francophone. Et public francophone, oui. Pas que des Français. Ouais, ouais,
Il y a beaucoup de Portugais qui, de toute façon...
qui étaient friands de culture française. Oui. Et après, on a été accueillis dans des boîtes de fado, justement, à Lisbonne, aux Azulejos, avec des Portugais. Et ils ont absolument... Non, on voulait qu'ils nous chantent du fado, mais non, ils ont voulu absolument nous chanter des chansons françaises. Et on a passé une soirée dans une boîte de fado, aux Azulejos, à Lisbonne, à écouter de la chanson française. Du Rissé Barrié, du...
Ben, c'est dommage qu'à cette époque-là, en fait, ça n'ait pas été l'époque où le frère de Luc était au Brésil.
Ah oui,
parce que Luc avait adoré le Brésil, ouais, et d'ailleurs, j'avais chanté une chanson brésilienne lors d'un spectacle.
Ouais, ouais.
Je ne savais pas pourquoi j'ai chanté cette chanson, mais c'était très intéressant. Mais
c'est d'ailleurs, je crois, du Brésil qui est venu aussi, sa passion du théâtre à Luc. Oui, hein, du fait qu'il a été, un grand basketteur. Hein, il a été,
National.
Oui, il était dans l'équipe nationale de basket. Hein.
Ça, TP peut le dire.
Ouais, TP, ouais. Et puis il est allé au Brésil. Et au Brésil, il était très intéressé par toutes le capoeira. Il parlait beaucoup de capoeira.
Ah oui, oui.
De toutes les
batucada.
La batucada. Tous ces petits trucs de ces petites manifestations spontanées corporelles qui se passaient dans les rues au Brésil.
Plus la musique.
Plus la musique,
tout ce qui était chant aussi. Ouais.
Voilà, et c'est à partir d'ailleurs, de ces deux expériences, qu'en cherchant, en retrouvant des notes, qu'on se dit, nous, maintenant, parce qu'ils nous en parlaient quand même, hein, que ça vient de là, quoi. Du Brésil, il en parlait souvent. Hein. Ouais.
Sa fille a été en Amérique du Sud, hein, Joël.
Oui, ouais, au Venezuela.
Et elle a hérité de cette passion, de ce talent aussi. Ouais, hein. Elle est actuellement à Athènes.
Elle est à Athènes, oui. Et elle a créé
un théâtre avec des activités qui sont assez époustouflantes. Hein.
Tout à fait, oui. Ouais. Chez elle, dans son appartement, c'est ça qui est fort.
Oui, oui. Ouais. Espérons qu'elle viendra peut-être à Toulouse.
En tout cas, elle sera là, le 20.
Hein.
Le
20 sera là.
Elle va chanter, d'ailleurs.
Oui. Alors, il y a dans cette... Ce samedi, il y aura aussi dans le dévoilement de sculptures.
Oui, alors oui, on a retrouvé, enfin j'ai retrouvé, c'est un garçon avec qui je suis quand même restée en contact depuis mes origines, enfin ma première rencontre avec le théâtre réel. C'était pas vraiment au Théâtre Réel, c'était dans un atelier de Luc Montec qui s'appelait Théâtre Lier 2 et ça doit dater de peu près 73-74. Et là, dans cet atelier, il y avait un garçon qui s'appelle Gilles Tanguy qui faisait des études d'architecture. Et ensuite, il a fait architecte pendant un moment et puis il a laissé tomber pour devenir plasticien. Et il a beaucoup travaillé, il a fait des trucs extraordinaires, Gilles Tanguy.
Des installations,
mais grandioses.
Notamment pour Leclerc, pour l'agrandissement de Leclerc.
Et pour AZF, il avait imaginé, mais c'est une folie ça, il avait imaginé et il avait fait en sorte qu'il y ait des brouettes qui partent de AZF et qui viennent l'une après l'autre depuis le trou d'AZF, jusqu'à l'hôpital Marchand. Devant l'hôpital Marchand, il y a une grosse fontaine. Et autour de la fontaine, il avait installé une machine à base de marteaux qui fonctionnait les uns reliés par rapport aux autres. Mais il y avait peut-être 700 marteaux. Hein. Et tout ça, ça tapait, tac, tac, tac. Et ça créait des sons avec l'eau qui jaillissait au milieu. C'était incroyable. Et lui, il va faire une installation très poétique d'ailleurs, ça va te plaire, puisqu'il joue sur les mots, et il joue sur les mots et sur les mots bijoux, cailloux, joujoux, genoux, etc., etc., qu'il va accrocher dans les arbres, mais à l'envers. Ah. Voilà, et ça, c'est autour de la plaque. Ça, c'est la première intervention. Une deuxième intervention, sculpture, c'est Nadia et Vincent Liebeck. Alors, ce sont des gens, ça c'est une histoire qui est quand même assez exceptionnelle, ce sont des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, voilà, Monique, tu organises un truc comme ça, ils ne me connaissaient pas, ils me voyaient à la base, maintenant on est devenus amis, Et ça nous intéresse, et on a des sculptures, est-ce qu'on peut venir les mettre? Oh, je ne connaissais pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Envoyez-moi vos sculptures. Ils m'envoient des sculptures qui pèsent une tonne. Des trucs, alors ils vont m'envoyer, ils vont me mettre une coccinelle, et je trouve que c'est bien vu, parce que notre manifestation, c'est, et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour rigoler? Et c'est une coccinelle qui mesure 3 mètres de haut, et qui fait un clin d'œil et qui tire la langue. Donc ça, je trouve que c'est bien vu, à l'entrée du mur, de mettre cette coccinelle-là. Oui. Ils vont aussi envoyer une autre sculpture, et en deux fois, parce qu'ils peuvent trimballer qu'une sculpture à la fois. Hein. C'est un oiseau. Et l'oiseau, une des dernières créations de Luc et Monique, c'est les oiseaux d'Aristophane. Donc j'ai dit, ouais, les oiseaux, ça marche. Voilà. Et ensuite, c'est pas tout. Ensuite, nous avons à l'intérieur de la salle des installations de Cathy Dupuis, qui est Cathy, qu'on connaît depuis des années aussi, qui nous raconte une histoire à propos de Luc, sur sa première rencontre avec Luc, qui a s'est piqué des verres aussi. Et elle a fait de la peinture. Elle a fait une affiche. J'ai pris un de ses tableaux qui a servi d'affiche à un des spectacles que j'avais mis en scène moi. Et Cathy, elle fait des installations dans des petites boîtes. Et donc, on va mettre des petites boîtes de Cathy de temps en temps, à certains endroits, dans le théâtre. Christine Montec aussi, qui est la femme du frère de Luc, qui fait de la peinture, qui c'est très très beau ce qu'elle fait, et on va aussi mettre ses œuvres dans le théâtre. Voilà.
Je pensais à quelque chose pendant quand tu as parlé de Gilles Tanguy.
Oui.
Il était archi à cette époque-là,
oui.
Et il me semble que nous avions travaillé aussi dans l'unité d'architecture avec Luc.
Et il y avait quelqu'un
Christian
Cross, voilà. Qui est le photographe du réel depuis l'existence du réel.
Exactement.
Ouais.
Et il y aura une exposition de photos.
Il va y avoir des photos de lui qui vont passer en boucle,
en noir et blanc,
sur la scène du théâtre, en fond de scène du théâtre, en noir et blanc.
D'accord, un grand format.
Oh, oui.
D'accord.
Voilà, celle-là, celle que vous avez sous les yeux, celle de Luc, celle de Monique, qui sont de lui.
D'accord.
Et alors, toujours, on va continuer à parler de photos parce que, du coup, Christian, il sera là. Yvan Montec, qui est le fils de Luc, il a toutes ses photos, il a toujours vécu, il a grandi avec ses photos. Et donc Christian et lui, ils ont décidé de faire deux postes, deux ateliers photos, avec une photo de Luc et une photo de Monique, qui seront des modèles. Et ils vont tout au cours de la soirée photographier le public dans les poses de Luc pour les garçons, et de Monique pour les filles.
Ceux qui voudront, bien sûr.
Ceux qui voudront. Oui.
Et ça créera une galerie.
Il y en aura beaucoup, je
pense. On aura une galerie.
Voilà. Alors, pour nos auditeurs, ils peuvent aller sur le site les-poètes.fr pour voir la pose de Luc Montec, puisque c'est cette pose qui est sur l'affiche.
Voilà.
Hein, ouais. De l'événement, c'est samedi 20 octobre.
Hein. Je ne sais pas s'ils auront le regard et le sourire de Luc, parce que c'est assez spécial. C'est comme
assez
ça qu'on
est venu. Quand même.
Assez provocateur.
Et puis ce regard bleu.
Alors, vous, qu'allez-vous faire, Josette? Qu'est-ce que tu vas faire?
Moi, je vais chanter.
Chanter.
Voilà, je vais chanter pour rire, je vais chanter les bidons de lait de Charles Trenet. Ah. Enfin, ça s'appelle des billes de lait, des billes de l'eau.
Oui. Mmh.
Voilà. Alors, je m'entraîne à parler très vite.
Et Monique?
Moi, je vais courir partout.
Ouais.
Je vais courir partout parce que je vais accueillir les gens. Et
d'accord.
Puis,
c'est l'organisation.
Il y aura toujours des questions, il y aura toujours des choses à régler, il y aura toujours.
Oui.
Voilà. J'ai fait une vidéo quand même avec ma fille.
Ah, très bien.
Voilà.
D'accord. Qui sera projeté sur le mur là aussi?
Qui sera projeté au foyer. Les vidéos seront projetées au foyer du théâtre.
D'accord.
Ma fille, qui elle est née dans la marmite quand elle était petite, puisque son père aussi faisait partie du théâtre réel. Et puis, depuis toute petite, elle me dit, mais tu sais, maman, Luc, c'est mon tonton.
Mon fils, c'était parrain marraine, Luc et Monique.
Voilà.
Il sera ravi d'être là aussi.
Ouais. Ouais.
Très bien. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons nous quitter. On va se quitter sur une dernière chanson de Jean-Claude Ettori. Donc, on rappelle l'événement, l'immersion artistique dans l'univers de Monique Demey et Luc Montec, samedi 20 octobre à 17h30, devant le théâtre Jules Julien.
Avec le soleil.
Avec le soleil.
Avec le soleil.
Avec le soleil.
On l'a commandé, il sera là. Il a dit oui.
Et nous nous quittons donc sur un morceau de Jean-Claude Détoury.
La Luna.
Merci.
Avec voilà. Plaisir.
Ouais, écoute.
Merci Christian.
Merci à vous.
Merci à vous. À la semaine prochaine.
Le soir tombait sur les quartiers d'une couleur délavée. Et puis des bruits, des bruissements, des choses étranges à tout moment. Lucie regardait la télé, un film en noir et blanc d'Alfred. Le commissariat du coin, vol et fraction, sans témoin. Alors il finissait ma nuit, l'assassin meurt sans un cri. Toi tu dormais à mes côtés, une histoire répétée. Tes yeux passent souvent, voile blanche d'un gréement. Je revois pousser des rizières sur ton ventre de berbère. Ton atlas de poussière. Un refuge, un repère. On a dansé sur l'horizon avec les vents et les moussons. Face au sud qui est malade, qui va, qui vient de port en rade. Qu'est-ce que je fous dans ma rue, dans ces mots, ces regards qui tuent. Surgir d'un mot clandestin, rentrer tous les matins. Prendre le transsibérien, te peindre de petits câlins. Le jour venait sur les quartiers, Lucie doucement s'éveillait. Moi, je fermais mon livre, fatigué, complètement ivre. Mes tempes battaient au cœur comme l'attente de l'orpailleur.